Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs du 101.5 de Radio G sur le radio-g.fr et bien entendu sur le DAB+. Alors, je sais qu'on nous écoute dans le 44, par exemple. Je dis bonjour à Maxime, bonjour à Alain, bonjour à Jean-François et voilà, et toute cette équipe de gens qui sont tous des passionnés des investis. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va les intéresser, comme vous d'ailleurs. Le thème va être aujourd'hui l'humanisme, la solidarité, parce que vous avez tous vu effectivement les trahisons qu'ont subi les agriculteurs aujourd'hui, les mensonges et les manipulations. Et aujourd'hui, bien, nous avons plus que comme objectif effectivement ce combat de rétablir un humanisme, de rétablir une solidarité nécessaire pour tous les gens qui souffrent aujourd'hui. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Monsieur le Président de l'association Resto Troc, qui est un acteur majeur, entre autres, sur le 49 en ce sens. Bruno, bonjour.
Bonjour Guy.
Alors, Resto Troc, qu'est-ce que c'est ?
Resto Troc, c'est une petite association qui a bientôt 40 ans, l'année prochaine, qui est implantée dans un quartier prioritaire de la ville, Belbey, sur la ville d'Angers. On anime et on porte trois dispositifs, dont on reparlera tout à l'heure, un espace de vie sociale, un chantier d'insertion et une cuisine nomade. Voilà pour l'essentiel, c'est une association loi 1901, bien entendu, dont je suis et j'ai l'honneur d'être le président élu tous les ans.
Et un président passionné au travers des discussions qu'on a eues en amont, effectivement. Alors, Resto Troc, effectivement, alors quel est le projet associatif de cette association ?
Alors, c'est très clairement décrit dans notre objet, article 1, objet statutaire, à savoir l'insertion sociale et professionnelle et ou professionnelle des gens que nous accueillons et que nous suivons. Nous sommes clairement ancrés dans la lutte contre la pauvreté et la précarité et l'isolement social. Voilà ce qui porte et ce qui fait que toute l'association existe et qu'elle anime les activités que je vous ai décrites tout à l'heure.
Alors, le projet associatif donc qu'on vient de citer, alors finalement, quelle est l'activité essentielle de cette association ?
Alors, on a trois activités. Je vais essayer d'être court, d'être synthétique.
Nous avons notre temps.
Voilà. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir. Je dis nous parce que je représente l'association. Je ne suis pas l'association. Je suis pas Bruno André. Voilà. Je suis dans ma fonction de représentant de l'association et de toutes les équipes qui font tourner l'association.
On les salue toutes ces équipes.
Voilà. Donc, on a ces trois, nos trois dispositifs. On a un chantier d'insertion, tout d'abord. Un chantier d'insertion, c'est une cuisine professionnelle, qui produit des repas, dans lequel nous recrutons 20, 21 salariés en parcours d'insertion, en contrat à durée déterminée insertion. Cette équipe de 20, 21 salariés est accompagnée par des professionnels, trois encadrants techniques et une chargée d'insertion professionnelle. Nous produisons des repas qui vont servir au restaurant solidaire, dont je vais parler dans un instant, au traiteur événementiel. Nous faisons des sorties, et là, on est clairement dans du travail de traiteur lambda qu'on peut trouver dans le milieu ordinaire et du traiteur solidaire qui est très important puisque on produit des repas pour l'hôtel social à Beaucouzé, on produit des repas pour des partenaires CHRS, les Restos du Cœur. Je salue nos camarades de l'Arceau, voilà, un foyer juste à côté de chez nous. Voilà, donc le traiteur solidaire produit des repas pour des partenaires sociaux et aussi pour une activité un peu plus économique. Et le restaurant solidaire est ouvert du lundi au vendredi tous les midis, avec deux services. Et là, nous servons des repas. On paye, en fonction des moyens, entre 3 et 10 euros.
Alors Bruno, on va aller un peu plus dans le détail, parce qu'on va commencer déjà par le nerf de la guerre. À quel public cela s'adresse-t-il ?
Nous, on s'adresse essentiellement à des publics. Alors, on voudrait un public mixé. C'est pour ça que les prix des repas sont en fonction du quotient familial. Mais bon, 75% des gens qui viennent manger chez nous sont des gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Ce sont des travailleurs pauvres ou des retraités pauvres, des jeunes, des étudiants, voilà, des personnes qui vivent avec les minima sociaux. Le prix moyen du repas, c'est 3,65 euros. Voilà, sachant que je viens de vous dire que ça va de 3 à 10 euros. Donc vous voyez, c'est essentiellement vers des gens qui sont très désargentés et qui sont voilà, à la limite de la vie-survie. Hein. Être sous le seuil de pauvreté, vous êtes en état de survie.
Alors, quel constat faites-vous, effectivement ? Est-ce que vous constatez une évolution croissante de cette population sous le seuil de pauvreté. Est-ce que la pauvreté augmente à vos yeux? On en est là-dessus.
Nous, ce que l'on observe de l'endroit où nous sommes, c'est effectivement de toute façon un accroissement de la pauvreté et surtout de la précarité. Des gens qui vivent bon an, mal an, avec des stratégies de survie, avec leurs petites allocations, les minima sociaux ne vous permettent pas de vivre. C'est un état de survie. Vous êtes, voilà. Puis 1000 euros par mois quand vous êtes tout seul, une fois que vous avez payé votre loyer, vous faites le compte de ce qui vous reste, vous finissez à zéro bien avant la fin du mois. Et cette population-là vont croissante. C'est une population qu'on voyait pas trop, notamment au niveau des retraités pauvres qui sont là ces 5-6 dernières années en accroissement de nos statistiques, de ce que l'on observe nous, et des travailleurs pauvres.
Alors, de votre vision des choses, de votre constat, finalement, comment explique-t-on justement cette désévolution?
C'est compliqué, là. Nous, à l'endroit où l'on est, on ne peut pas voir tous les tenants et les aboutissants qui amènent les gens dans cette situation-là. On va parler de la campagne de dons que nous venons de lancer, mais nous-mêmes, alors que nous luttons contre la précarité, nous et nos collègues, hein, les chantiers d'insertion, les associations, nous ne sommes pas les seuls ou la seule association à être en difficulté, nous sommes mis en état de précarité. Là, le Covid, l'explosion des coûts de l'alimentation et des énergies, assez catastrophique pour nous, hein, nous a épuisé une bonne partie de nos fonds propres et nous fait faire des déficits depuis 3 ans. Là, voilà. Eh bien, pour monsieur, madame, tout le monde, cette explosion des coûts, le fait que le travail soit aussi de façon toujours un peu parcellaire, c'est du pointillisme. Hein. Les gens qui vont d'un petit contrat à un petit contrat, et il y a forcément des moments de latence. Voilà, mais ça contribue à la pauvreté. Après, plus fondamentalement, pourquoi cette situation se produit il faudrait faire une analyse et un temps un petit peu plus
prolongé. Alors justement, j'allais vous poser la question. Avez-vous une vision des choses, à savoir à qui profite le crime?
Je ne saurais pas vous dire s'il y a crime ou pas. En tout cas, il y a des choses qui se dérèglent. Ça, c'est évident. Des choses qui se dérèglent. On a, alors, ça paraît paradoxal, mais la chance d'être finalement dans une société où la culture associative et l'engagement continu sont bien là. C'est ce qui fait d'ailleurs que nos équipes de bénévoles et de salariés que je salue sont très, très engagés, très déterminés à se battre contre la pauvreté et la précarité. Mais voilà, je pense que plus le système se déséquilibre, c'est-à-dire que plus la pauvreté croît, c'est le cas en France, hein, puisqu'on bat le record de pauvreté, du taux de pauvreté dans ce pays.
Oui, je pense que la France est bénéficiaire d'un triste record, voilà, nombreux en ce moment. Oui, c'est...
Et plus les gens qui possèdent beaucoup croient aussi, et au milieu, il y a une espèce de béance qui se crée, donc voilà, des déséquilibres profonds.
Alors, on faisait, dans la continuité, effectivement, on parlait tout à l'heure de chantier d'insertion. Alors, comment se structure tout ça?
Alors, chantier d'insertion, c'est une très belle invention. Hein. qui permet à des gens qui sont aux minima sociaux, qui sont au chômage, à des gens qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, à des jeunes aussi, de moins de 26 ans, de signer un contrat à durée déterminée insertion. Et il se passe 3 choses au moment où on signe le contrat. 1, ils ont un boulot. Ça, c'est fantastique, par les temps qui courent. Alors, c'est du temps partiel peut-être, mais c'est un travail. Nous, ça démarre à 26 heures par semaine sur 35, payé au SMIC, et on peut aller jusqu'à 35 heures. 2, des formations, formation culture générale. Nous avons 15 nationalités dans le chantier, avec des gens qui, lisent pas très bien, voire... pas très bien, parle pas beaucoup le français ou lisent très mal ou pas très bien le français, ont des difficultés à compter. Formation en français, lire, écrire, compter et en arithmétique. Comprendre aussi le monde social dans lequel ils sont, le statut de salarié, comprendre sa feuille de paye, repérer les mécanismes d'une entreprise, le poste, voilà, les liens de subordination d'un contrat de travail et des formations. Et la troisième chose, c'est un accompagnement social et professionnel. L'objectif du chantier d'insertion, c'est que la personne, quand elle nous quitte, elle quitte la précarité, elle retourne vers l'emploi durable. On a un taux de retour à l'emploi durable et à la formation qualifiante de 65%.
Ah, bravo.
Voilà, on est assez content. Voilà, et on aimerait bien que ce soit 100%, mais après il y a des aléas de la vie, des accidents de la vie qui rentrent, enfin, indépendantes de la volonté et des personnes et de nous. Mais voilà, l'idée c'est ça. Hein. On a 2 ans maximum pour amener les gens d'une situation de précarité, de dépendance et d'état de survie à de redevenir un citoyen, un être souverain.
travailleur,
voilà, travailleur, quelqu'un qui contribue, l'économie. Voilà, qui contribue à l'économie et aussi au modèle social dans lequel il est immergé, dont il a pu bénéficier. Il passe d'allocataire à contributeur dès le moment où il signe ce contrat de travail. Voilà ce qu'est le chantier d'insertion. Pour cela, il y a des encadrants techniques qui sont des professionnels absolument fantastiques. Voilà, je sais pas s'ils m'écoutent, mais ils sont chefs cuisiniers et en même temps, ils sont accompagnants et encadrants de public qui sont, voilà, une cuisine, c'est un endroit qui peut être dangereux. Ça coupe, ça brûle, ça tranche. Il y a des normes d'hygiène très importantes. Ils sont capables d'accueillir les personnes, de les former et en même temps de produire des repas. Et de produire, voilà, on produit jusqu'à 60 000, 68 000 repas en, d'accord, entre...
Alors, allons dans le cœur du problème. Tout ça risque d'être mis en cause pour une raison essentiellement financière. Quelles sont vos problématiques aujourd'hui en termes de financement ?
Nous, nos problématiques, elles ont commencé et là depuis 2 ans et le projet de loi de finances préfigure des choses assez sombres pour nous pour 2026. C'est une diminution des financements des postes justement pour ces salariés. Moins on a de financement, moins on peut embaucher ces personnes. Ces personnes, d'ailleurs, la définition du chantier d'insertion par le législateur, c'est des personnes qui, même s'il y avait du plein emploi en milieu ordinaire, ne pourraient pas accéder à l'emploi pour tout un tas de raisons. La communication, la langue, les moyens de se déplacer, mais la qualification, les compétences. Donc, retirer des financements au chantier d'insertion, c'est priver des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. On a estimé que sur l'Anjou, ça pouvait représenter 200 emplois, pardon, excusez-moi, sur le Maine-et-Loire, oui, c'est ça, 200 emplois en moins. Alors, il va y avoir un projet, en tout cas, le projet de loi de finances n'est pas définitivement acté, mais qui va vraisemblablement, qui cible la suppression de 20 000 postes sur l'ensemble du territoire. Donc on prive d'emploi et d'une opportunité de personnes de sortir de la précarité. C'est absurde, parce que ces gens, que deviennent-ils ? Comment vont-ils survivre ? D'abord, ils vont souffrir, et ce sont des chargés de famille, nous avons 70-75% de mamans, de mères de famille. Les priver de cet emploi, vous privez toute la famille d'une ressource. C'est vraiment maintenir les gens dans la paupérisation.
Alors, effectivement, juste pour citer quelques chiffres, le monde des radios associatives aujourd'hui, si le PLF est maintenu, ça fait 80% de suppression d'emplois sur les 3000 existants aujourd'hui, quoi. Donc ça, il est important que les gens entendent bien, effectivement, ce drame, alors que l'économie de l'État, on l'attend toujours. Il n'y a pas un centime d'économie qui arrive, visiblement. Il doit y avoir une surdité entre les deux, je ne sais pas. Alors, maintenant, le fameux projet, ultime projet original, la cuisine nomade. Alors ça, je veux tout savoir, Bruno.
La cuisine nomade, c'est un projet qu'on a mis en place il y a 3 ans. D'ailleurs, ça a été une chaîne de solidarité qui avait été à l'origine. L'idée est partie pendant Covid avec le Secours Populaire. Et on s'est dit, bon voilà, il faut absolument que les gens quand même puissent s'alimenter, les publics dont on parle. Et puis on s'est dit aussi, mais au fait, de toute façon, de là où on est, à Belbey, il y a une quantité de population qui de toute façon ne se déplacera pas jusqu'à chez nous. Et même n'osera pas pousser la porte. Donc on a répondu à un appel à projet qui s'appelle Mieux manger pour tous, lancé par l'État. D'accord ? On a été lauréat de cet appel à projet et on a mis en place un concept. On se déplace vers les gens. On a une professionnelle, éducatrice spécialisée et une ancienne professionnelle de la restauration, formation professionnelle de la restauration, qui se déplace avec son équipement et des bénévoles et qui va sur site, près des gens, rencontrer les gens pour animer des ateliers de cuisine. Les gens participent et repartent évidemment avec ce qu'ils ont cuisiné. On utilise des légumes, on achète des légumes au jardin de Cocagny-Angevin que je salue, voilà, parmi un nombreux partenaires. Cette cuisine intervient auprès du point d'accueil Santé Solidarité, dans les CHRS, dans les centres de distribution du Secours Populaire, etc., etc. Et aussi à l'hôtel social de Beaucouzé, au sas d'obligation de mise à l'abri. Et ces animations d'ateliers sont aussi et surtout des moments de chaleur humaine, de rencontre, d'humanité. Il y a beaucoup de convivialité au-delà de la nourriture, mais c'est important. C'est surtout retrouver du lien social et sortir de son isolement.
Alors, vous avez un problème commun à beaucoup d'associations, voire toutes, pratiquement les associations, le recrutement de bénévoles. Parce que le bénévolat est un mot qui a fait le tour du monde, visiblement, qui a du mal à en revenir, comme dirait un certain écrivain. aujourd'hui, avez-vous besoin de bénévoles? Quels sont vos besoins?
Alors, on a des besoins de bénévoles pour plein de choses. Par exemple, des cours de maths, des cours d'arithmétique, le code de la route, la sortie de la cuisine nomade. On a besoin de bénévoles. Claire, voilà, la responsable de la cuisine nomade, elle ne peut pas animer tout ça toute seule. Il y a de la manutention aussi, mais il y a aussi le relationnel, l'état de présence dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a aussi besoin de bénévoles pour l'accueil. On a besoin de bénévoles pour aller chercher les denrées aux mines ou au jardin de Cocagne. Voilà, donc ce besoin en bénévoles, il est permanent. On a une cinquantaine de bénévoles actuellement. Mais pour pas épuiser la ressource des bénévoles, que ce soit pas toujours les mêmes, etc., et pouvoir répondre au pic de demande, voilà, si vous pensez à nous, c'est très bien. Il y a des activités qui ont lieu en journée et d'autres, comme les sorties de cuisine nomade, qui peuvent être un petit peu décalées, voire même certaines fois le week-end. Pour prendre contact avec nous et savoir nos besoins, je peux citer le site Restotroc.
Bien entendu.
Voilà, vous allez sur n'importe quelle barre de moteur de recherche, vous tapez Restotroc, attaché ou séparé, vous arrivez Angers, d'accord, et vous allez arriver sur le site de Restotroc, vous allez trouver la campagne de dons, et ensuite les coordonnées et les contacts pour savoir à qui vous adresser, voir toutes nos activités.
Alors, également pour contrecarrer les baisses de subventions drastiques et quelque peu incompréhensibles pour certains, quels sont vos besoins financiers?
Là, on a lancé une campagne de dons, on espère arriver jusqu'à récolter 50 000 euros. On a eu une aide de la ville d'Angers, nous avons aussi une petite aide de l'État pour compenser les dégâts causés par les pertes de subventions et les pertes de postes. Et là, c'est 50 000 euros. Nous en sommes arrivés aujourd'hui, on est à 12 000 ou 13 000 euros. Cet argent va nous permettre de sauver des emplois. Parce que l'année prochaine, ce qui va nous arriver, c'est que nous allons perdre des emplois si nous n'arrivons pas à établir notre équilibre, à retrouver notre équilibre. Des emplois de salariés en parcours d'insertion, mais aussi des salariés permanents.
Oui, effectivement, à signaler quand même l'effort de la mairie d'Angers et la ville d'Angers envers les associations qu'on doit vraiment signaler et à juste titre. Alors maintenant, parce que le temps passe, Bruno, on va tout simplement donner les contacts, le site géographique déjà, dans un premier temps, quel est-il?
Alors, le site géographique, c'est-à-dire nous trouvons Bois-Ramé. Alors, vous savez quoi? Je ne connais pas l'adresse par cœur. On est à Belbeil. Je vais vous donner ça tout de suite. Et sinon, pour le site internet, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous tapez Restotroc et vous allez arriver chez nous. Et nous trouvons 18 rue Louis-Bois-Ramé à Angers. Voilà, vous pouvez vous y rendre. Alors, nous ne sommes pas ouverts le week-end. Du lundi au vendredi à partir de 9h jusqu'à 16h30. Voilà, sinon le mieux c'est de passer par le site internet, prendre contact par téléphone pour rejoindre mes collègues.
Il y a un numéro, on peut...
Oui, bien sûr, le numéro c'est 02 41 73 88 12.
Voilà Bruno, le mot d'ordre est passé et puis j'ai trouvé original tout à l'heure, on parlait du mot de la fin. Vous citiez tout à l'heure...
Victor Hugo, oui bien sûr. Parce que dans ces temps sombres où on perd un peu les moyens de la solidarité, surtout ne pas céder à la résignation. Moi, je suis très très heureux de côtoyer le public, mais aussi mes collègues salariés et bénévoles. Et le mot de Victor Hugo, c'est « ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Et ça, c'est ce qui m'anime tous les jours.
Ce sera un merveilleux mot de la fin pour toutes les situations que l'on vit actuellement. Alors, eh bien, écoutez à toutes les auditrices et auditeurs du 101.5, et avec, en plus, accompagnement de mon ami Jean en commande, nous vous souhaitons tous les deux de très très belles fêtes de fin d'année en ces périodes particulièrement douloureuses, traumatisante pour certains. Donc, encore une fois, tout notre soutien au monde agricole, tout notre soutien au monde associatif, qui est vraiment mis à mal en ce moment, qui sont mis à mal. Donc, à toutes ces populations, nous disons, et Radio G dit, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, battez-vous, continuez à vivre, parce que nous avons besoin de vous. Vous êtes des éléments essentiels de notre vie de tous les jours, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Dans 15 jours, non. Début janvier.
Humanité, partage, culture, art, découverte, science, musique, territoire, entraide, bénévolat, cohésion, santé, sport, rencontre, à l'assaut,
à l'assaut,
à l'assaut,
à l'assaut.
Un vendredi sur deux, à 13h, sur le 101.5 FM de Radio G, retrouvez à l'assaut, la chronique dédiée aux associations.